Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, je vais évoquer pour vous le cardinal Dubois, principal ministre de Philippe d'Orléans, Philippe d'Orléans, neveu de Louis XIV, régent du royaume de France durant la minorité de Louis XV. Sur chacun de ses portraits, le cardinal Dubois esquisse un léger sourire teinté de malice. Et si le marbre de Coustou, agrémentant son mausolée à l'église Saint-Roch à Paris, le représente en oraison, agenouillé, les mains jointes, le regard humblement tourné vers le sol, il n'en arbore pas moins ce même sourire énigmatique qui, davantage que la bienveillance naturelle de l'homme de Dieu, semble exprimer une ironie pleine de sous-entendus. Pourquoi ce sourire énigmatique ? Béatitude du serviteur de Dieu s'apprêtant à rejoindre son Créateur ou jubilation intérieure mal contenue d'un parfait Tartuffe, monstre de cynisme et d'ambition? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode en deux parties. Le jour de son ordination tardive, qui précéda de quelques jours à peine son élévation à la dignité de cardinal, le régent Persifleur aurait lancé à l'abbé Dubois
« Profite de l'occasion pour te faire baptiser !»
L'abbé Dubois, un parfait Tartuffe, c'est en tout cas la conviction de Saint-Simon, premier d'une longue liste à tremper sa plume dans le vitriol pour nous décrire un Dubois machiavélique.
L'abbé Dubois était un petit homme maigre, effilé, chafouin, à perruque blonde, à mine de fouine. Tous les vices combattaient en lui, à qui en demeurerait le maître. L'avarice, la débauche, l'ambition étaient ses dieux. La perfidie, la flatterie, les servages, ses moyens. L'impiété parfaite, son repos. Il excellait en basses intrigues, il en vivait. Il ne pouvait s'en passer.
Ouais, suivent différents noms d'oiseaux, hommes de néant, fripon, sacre, sacre. Alors là, entendez par là, sacré baiser. Passez-moi l'expression. Pour Dubois, ite missa est, la messe est dite. Et dans le sillage de Saint-Simon, biographie à charge et faux mémoire édité jusqu'au début du XXe siècle, vont colporter sur Guillaume Dubois, né le 6 septembre 1656 à Brive-la-Gaillarde dans le Limousin, les anecdotes les plus malveillantes. Alors à l'âge de 13 ans, il aurait dérobé à son père apothicaire un puissant laxatif, un laxatif qu'on appelle de l'antimoine. Il verse ce laxatif dans la marmite des pensionnaires du prieuré Saint-Martin où il est élève. Puis, alors qu'il n'a que 15 ans, il engrosse une certaine Pierrette, servante du premier président du Parlement de Bordeaux, qu'il a engagée comme précepteur. Il l'épouse, dépense sa dot en beuveries et coucheries, et une fois sans le sou, l'abandonne et part pour Paris. Ce serait donc un empoisonneur doublé d'un fornicateur. Mais qu'en est-il vraiment ? En fait, le père de Dubois n'était pas boutiquier, mais médecin. C'est son oncle qui était apothicaire. Si Saint-Simon en fait un boutiquier dans la diatribe qu'il lui consacre, c'est qu'à ses yeux, l'origine médiocre de son ennemi juré est déjà en soi une infamie.
Dans sa conception hiérarchique de la société, personne ne doit s'élever à des dignités qui ne correspondent pas à son rang de naissance. La réussite d'un sujet de petite extraction ne peut s'expliquer que par la scélératesse et des vices inouïs.
N'en déplaise à ses accusateurs, le jeune Dubois n'a jamais été un vaurien, mais fut au contraire un élève remarquablement doué, montrant curiosité et talent pour toutes les matières. En particulier, il est un excellent latiniste, alors que l'on dira complaisamment de lui qu'il bredouillait trois mots en latin pour dire la messe. Il est immédiatement distingué et obtient une bourse pour le collège Saint-Michel, rue de Bièvre à Paris, où il arrive à 16 ans en 1672. De vulgaire valet du curé de Saint-Eustache à entendre Saint-Simon, Dubois parvient en 1683 à se faire bombarder sous précepteur du duc de Chartres, alors âgé de 10 ans. Or, Saint-Simon affabule. Dubois n'a jamais été valet. Il était secrétaire du principal du collège de Navarre où il suivait l'enseignement de théologie et de philosophie. Et c'est grâce au directeur de ce collège qu'il va se faire des relations dans le monde. Il devient précepteur dans plusieurs grandes familles et de fil en aiguille se lie avec le chevalier de Lorraine et le marquis d'Effia, qui sont-ils les favoris de Monsieur Frère du Roi, Louis XIV bien sûr. C'est ainsi qu'il obtient le poste de sous-précepteur de son fils, le futur duc d'Orléans. Le 3 août 1687, à la mort de Saint-Laurent, précepteur en titre, Dubois devient, à 31 ans, seul maître de l'éducation de son élève, dont, selon ses contempteurs, il va désormais s'acharner à faire une créature dolente et velléitaire qu'il pourra façonner à son goût. Il s'efforcera de lui être agréable en étant toujours de son avis. Selon Saint-Simon, toujours, il gagne sa confiance, le manipule, lui fait prendre peur du roi et de monsieur son père. Quoi qu'il en soit, c'est à ce jour que commencèrent 40 années de tutelle, puis de collaboration, que seule la mort de Dubois devait interrompre. Dubois, interprété par Jean Rochefort dans le film de Bertrand Tavernier « Que la fête commence », où le régent est incarné par Philippe Noiret. Eh bien, ce Dubois-là, c'est celui de Saint-Simon.
Un Dubois fornicant, tenant des propos scandaleux, déguisé en satyre compère des maquerelles, confortant le régent dans ses excès et lui fournissant des filles, jurant, traité comme un laquais, sautant sur les tables et laissant la plus célèbre putain de Paris le couronner du titre de Macro. Personnage servile, il verse toujours dans l'ignominie.
Dubois flatte son élève du côté des mœurs pour le jeter dans la débauche, confirme Saint-Simon. Pire encore, à la manière de la grande Catherine de Russie qui faisait essayer ses futurs amants par ses dames de compagnie, Dubois aurait lui aussi testé toutes les femmes destinées au lit du jeune Philippe. Jalousé d'emblée pour son influence naissante, Dubois est dépeint par ses ennemis comme un foutriquet de la pire espèce. Déjà, une comptine circule, inspirée de ses débauches. Il court, le furet du bois, mesdames, contrepétrie libertine, marquant le début d'une campagne de dénigrement qui ne cessera jamais de s'amplifier. On retrouve ces accusations dans les orgies de la régence.
C'est lui qui fut chargé de l'éducation du jeune duc de Chartres et qui lui inculqua tous les vices dont il tirait profit. C'est lui qui, lorsque son élève fut devenu le duc d'Orléans, favorisa ses goûts libertins et n'hésita pas à faire le métier de maquereau en emmenant sans cesse de nouvelles conquêtes au jeune prince. Jamais le jeune duc d'Orléans ne put s'affranchir de l'influence néfaste de cet homme sans scrupules et capable de tout pour arriver à ses fins. Jadis, on avait attribué à Mazarin le beau vice de monsieur. De même a-t-on attribué à Dubois le goût du régent pour les femmes. Mais on ne fabrique pas davantage de séducteurs qu'on ne fabrique des homosexuels.
En réalité, Philippe n'a pas eu besoin de Dubois pour adorer les femmes. C'est un être voluptueux. Il a perdu son pucelage à 13 ans. Et puis, il n'a sous les yeux que de mauvais exemples. Rappelons qu'il ne vit pas à Versailles, mais au Palais Royal, au lieu de la prostitution parisienne, située d'ailleurs tout près de l'opéra. Aller à l'opéra ou au bordel, c'est du pareil au même, écrit sa mère, la princesse Palatine. Elle-même, faut-il le rappeler, est marié à un homosexuel notoire, Monsieur Frère du Roi, qui s'affiche ouvertement avec ses amants. Pour affliger qu'elle soit de l'excessive sensualité de son fils, elle ne voit donc pas d'un mauvais œil qu'il préfère les jolis tendrons aux jouvenceaux. Quoi qu'il en soit, l'abbé Dubois a bien du mal à maîtriser l'appétit sexuel de son élève. Le suit-il dans ses escapades? Sans aucun doute, puisqu'il le suit partout. Au demeurant, n'ayant reçu que la tonsure, il n'est pas prêtre et n'a donc pas fait vœu de chasteté. Il aura d'ailleurs une maîtresse attitrée, Alexandrine Guérin, mère de D'Alembert, le futur encyclopédiste. S'il suit volontiers son élève d'un bordel à l'autre, Dubois ne participe en revanche jamais à ses orgies, car il ne boit pas et se contente en général d'une cuisse de poulet pour tout repas. En revanche, maître et élève jurent tous deux comme des charretiers. À son Dubois, alias Jean Rochefort, cynique, païen, ambitieux, Tavernier fait dire
« Ça m'ennuiera de dire la messe. Je suis naturellement païen et difficilement chrétien, mais je pense à l'avenir. Un jour, je peux n'être plus ministre, mais archevêque, je le serai toujours. »
Bon, mais tout ça, ce sont des répliques de cinéma. Si la cour fait courir le bruit de son paganisme, certaines des accusations atroces dont Dubois fait l'objet ne résistent pas à l'examen des faits. En effet, si l'abbé était l'être lubrique décrit par Saint-Simon et ses suiveurs, l'austère Fénelon aurait-il été son ami, de même que Bossuet ? Le roi Louis XIV, nageant alors en pleine bigoterie avec Madame de Maintenon, aurait-il toléré sa présence auprès de son neveu ? Enfin et surtout, la princesse Palatine lui aurait-elle écrit ? J'ai beaucoup de reconnaissance de l'application que vous avez à faire un honnête homme de mon fils, et cela ajoute à l'estime que j'ai pour vous beaucoup d'amitié. La Palatine connaît parfaitement les défauts de son fils. Elle en plaisante. On a fait l'horoscope de mon plus jeune fils. Cet horoscope dit qu'il sera pape. Moi, je crains bien que ce petit ne soit plutôt l'antéchrist. À son propos, elle est aussi l'auteur de cette phrase restée célèbre. Il avait tous les dons, hormis celui de s'en servir. Précieux parmi tous, son témoignage est sans équivoque et elle considère que Dubois accomplit fort bien sa mission. Ses accusateurs veulent le faire passer pour un impie qui détourne son élève de la foi. Au contraire, selon les principes d'éducation que lui-même a rédigés, son objectif majeur est de faire de son élève un honnête homme et un prince fidèle à ses devoirs religieux.
Un prince comme chrétien doit savoir ce qu'il doit croire, ce qu'il doit faire envers Dieu, envers soi et envers son prochain.
Simplement, Dubois a le plus profond mépris pour les bigots et une sainte horreur de l'hypocrisie. Et puis, est-ce sa faute à lui si Philippe s'endort pendant la messe ? Dubois a bien compris que son élève n'étudierait jamais à coups d'étrivière comme le grand dauphin, fils de Louis XIV, martyrisé par son précepteur le duc de Montausier. Avec lui, la journée d'études doit se dérouler sous le signe de la bonne humeur et de la diversité. Religion, langue, histoire, mathématiques, philosophie, mais aussi stratégie, mécanique, chimie, poliorcétique, c'est-à-dire art de prendre et de défendre une ville, architecture et anatomie. Les études sont agrémentées de rencontres avec les plus grands savants du moment. Qu'importe si son élève n'est que sixième dans l'ordre de succession au trône de France, par une sorte de projection de ses propres désirs d'élévation sociale, Dubois lui dispense l'éducation d'un fils de roi. Entre le maître et l'élève se noue une entente profonde qui se prolongera entre le régent et son ministre. Mais venons-en maintenant aux plus lourdes charges pesant sur Dubois, selon ses détracteurs. Il aurait desservi le régent en le poussant à contracter un mariage déshonorant, aurait trahi les visées du roi de France dans l'affaire de la succession d'Espagne et comploté avec l'Angleterre, dont il aurait été l'affidé, récompensé en monnaie sonnante et trébuchante. Examinons ces graves accusations. En 1691, Louis XIV, voulant détourner Philippe de ses folles nuits parisiennes, l'envoie se battre dans les Flandres. Dubois le suit, bien sûr, y compris sur les champs de bataille. Vivant dans la plus grande intimité, ils sont plus proches que jamais. À leur retour à Paris l'année suivante, il va pouvoir gravir la première marche de son ascension. Louis XIV veut imposer à son neveu une union avec Mademoiselle de Blois, fille naturelle née de ses amours avec Madame de Montespan. Les parents de Philippe sont outrés par ce projet d'union visant à affaiblir la branche cadette des Bourbons. Or, c'est Dubois qui convainc son élève d'accepter. Pour la première fois, il trahit les intérêts de son protégé et assume sa fringale de pouvoir en jouant le rôle de courroie de transmission entre le roi et son neveu. Ce mariage lui vaut la reconnaissance de Louis XIV qui lui donne l'abbaye de Saint-Just en Picardie. Il a su se rendre indispensable, art par excellence, de ceux qui ne sont rien et veulent devenir quelque chose. 5 ans plus tard, le duc de Chartres, soupçonné d'être mêlé à une sombre affaire de poison et de sorcellerie, va connaître auprès de Louis XIV une disgrâce de 15 ans qui ne s'éteindra qu'à la mort de ce dernier. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire, je vous lirai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit et raconté l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Oscar Vatter. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve demain pour la seconde partie de mon récit Au cœur de l'histoire, consacré au cardinal Dubois.